Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, j'ai un invité qui s'appelle Guillaume Erard et avec qui je vais parler d'aïkido. C'est un spécialiste un peu de l'aïkido et de l'histoire de l'aïkido. En tout cas, c'est un sujet qui l'intéresse tout comme moi. Et la raison, pour ceux qui découvrent un peu le podcast, pour laquelle on parle d'aïkido sur un podcast sceptique, c'est j'ai déjà fait quelques épisodes sur ce qu'on appelle le Bushido, le Bullshido, mais surtout l'histoire des arts martiaux est très très méconnue et donc on a beaucoup d'idées un peu mythologiques dans nos têtes ou d'informations incorrectes. Et donc généralement j'ai parlé un peu sur le podcast avant du Bushido en général, mais j'ai eu l'idée d'inviter Guillaume Erard pour parler vraiment spécifiquement de l'histoire de l'aïkido. Bonjour.
Bonjour.
Alors avant de nous lancer dans l'histoire de l'aïkido, tu pourrais te présenter et nous dire quel grade tu as en aïkido, et puis on va parler de Daito Ryu aussi, mais vas-y.
Ok, donc je m'appelle Guillaume Erard, je vis au Japon depuis 6 ans. Et puis donc c'est vrai que l'aïkido, l'aïki, occupe une grande partie de ma vie maintenant. Alors je suis un élève du Hombudojo de l'Aikikai, et donc je suis quatrième dan que j'ai passé là-bas. Et je pratique aussi le Daito Ryu Aiki Jujutsu dans plusieurs groupes, l'un à Osaka et l'autre à Shikoku. Et je suis deuxième dan de cette école qui s'appelle le Takumakai.
Oui, donc pour ceux vraiment qui ne connaissent rien à l'aïkido ou même aux arts martiaux, le Hanbu Aikikai, c'est la maison mère, hein, donc c'est au centre de Tokyo, et c'est là qu'il y a le siège de la fédération principale, hein, et donc c'est là que tu t'entraînes. Est-ce que tu fais partie de ceux qui s'entraînent tôt le matin avant d'aller travailler?
Non, malheureusement non, parce que je travaille très tôt le matin, et en fait je vis sur Tokyo mais je travaille à Yokohama, donc il n'est pas question d'aller faire le cours, même le cours de 6h30 de Doshu, j'arriverai trop tard au travail, donc je m'entraîne le soir surtout. D'accord. Par contre le week-end, oui, effectivement j'y vais le matin.
Super. Donc voilà, l'idée un peu, c'est vraiment basiquement dans mes collègues d'aïkidoka, les gens que je fréquente, je me rends compte que souvent, si on leur demande ça vient d'où l'aïkido, comment c'est apparu, enfin si on pose des questions sur l'histoire de l'aïkido, souvent ils sont très ignorants de cette histoire, et généralement ils vont pouvoir me dire Osensei, donc Ueshiba, que les aïkidaka appellent Osensei, a créé l'aïkido. Au-delà de ça, généralement peut-être qu'ils sauront me dire que c'était aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, mais ça va généralement pas plus loin que ça. Et donc ici voilà, l'idée c'est de mettre un peu plus de choses derrière ça. Donc Guillaume, l'aïkido c'est né comment?
Alors, donc d'abord, oui, je suis assez d'accord avec toi que l'histoire de l'aïkido est en fait encore assez obscure, même au jour d'Internet et tout ça. Et je dirais même que c'est assez obscur pour les pratiquants eux-mêmes, et certains relativement haut gradés. Moi, je considère comme des acquis, des évidences. Finalement, je suis assez surpris quand je parle à des aïkidokas, de me rendre compte que le niveau culturel, en fait, au niveau de l'histoire de l'aïkido, est assez faible, quoi. Donc bon, c'est pour ça que j'essaie de mon côté de diffuser un petit peu l'information, tant bien que mal, avec les moyens limités que j'ai, pour essayer de non seulement d'éduquer les gens par rapport à évidemment l'histoire de l'art qu'ils pratiquent, l'histoire de leur passion, mais aussi pour essayer de donner un petit peu un contexte culturel et historique à ce qui se fait. Et donc bon, tu le sais évidemment, c'est le thème de ton podcast. Quand tu essaies de remettre des faits au centre de la scène, parfois ça froisse quelques sensibilités, puisque ça va contre certains acquis, et donc bon, les gens réagissent de façon assez diverse. Donc en ce qui concerne l'histoire de l'aïkido, c'est une approche un peu négative ce que je vais faire, mais bon, je pense que c'est un peu nécessaire. Je pense qu'il faut parler d'abord de la compréhension globale de l'histoire de l'aïkido, c'est-à-dire un petit peu erronée. on lit souvent que le fondateur de l'aïkido, qui s'appelait Ueshiba, avait pratiqué tout un tas d'arts martiaux japonais, si ce n'est tous, et qu'il les avait maîtrisés à un tel niveau qu'il il en avait fait une synthèse, et que cette synthèse, c'était l'aïkido. Bon, évidemment, comme dans tous les discours un petit peu qui donnent dans l'absolu, un petit peu comme ça, dans l'extrême comme ça, forcément, quand on gratte un peu, on voit tout de suite que c'est pas forcément vrai. Alors, effectivement, oui, Ueshiba avait une expérience martiale assez, assez étendue, parce qu'il avait la possibilité de le faire, c'est-à-dire qu'il a toujours eu dans sa vie des bienfaiteurs qui ont fait qu'il n'avait jamais trop à se soucier, comment dire, du fait de gagner sa vie, quoi. Il pouvait se consacrer aux arts martiaux de par son père, son oncle, et puis ensuite des bienfaiteurs. Et donc, il a pu étudier beaucoup d'arts martiaux. Et là, tout de suite, on se heurte assez rapidement à une méconnaissance, c'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'il avait étudié beaucoup de systèmes d'armes anciens. Or, lorsqu'on regarde attentivement, et quand de ses mots à lui d'ailleurs, dans une des rares interviews qui existent de lui, il explique bien qu'il a étudié les arts martiaux de certains Koryu, qui sont les écoles traditionnelles, mais il prend soin de préciser qu'il a étudié le taijutsu, le jujutsu, c'est-à-dire les techniques à main nue, et donc pas les armes. Ensuite, donc il a étudié quelques Koryu comme ça, il le dit lui-même assez superficiellement, assez rapidement, donc les techniques main nue, et ensuite il est rentré dans l'armée. Il avait très envie d'entrer dans l'armée, il en a un petit peu bavé parce qu'il était petit, mais il s'est fait accepter, il est rentré dans l'armée. Et là, il a appris le Jukenjutsu, c'est-à-dire la baïonnette, quoi. La baïonnette héritée du maniement de la baïonnette européen. Donc il a cette expérience-là, et puis ensuite, après l'armée, il a refait pas mal d'autres choses. Mais quand même, mis à part cette expérience de baïonnette, je pense qu'il est important de comprendre qu'il a étudié beaucoup, beaucoup de systèmes main nue. Et donc, quand on regarde l'aïkido, je pense qu'il est assez évident que l'aïkido est un système en grande partie à main nue. Après, il y a des armes, mais ça, on pourra en parler un peu plus tard, d'où elles viennent et ce qu'elles représentent. Mais voilà, donc... clairement, l'aïkido vient des arts à main nue. En particulier d'un qui s'appelle le Daitoryu Aikijujutsu. Et cet art, il l'a appris à Hokkaido. Enfin, il a commencé à l'apprendre à Hokkaido quand il a rencontré quelqu'un qui s'appelait Takeda Sokaku, qui donc était un grand maître de Daitoryu. Après, la question de savoir si il a inventé le Daitoryu ou si c'est un art... plus ancien, c'est une question qui est toujours en suspens. Bon, j'ai mon opinion là-dessus, on pourra encore une fois en parler plus tard. Mais ça a été un tournant dans sa vie, c'est-à-dire qu'il était quand même assez insatisfait de ce qu'il avait appris jusque-là. Et que pour la première fois, il voit en Takeda un maître qu'il respecte vraiment et un système qu'il respecte vraiment. Et donc il a fait son possible pour apprendre de ce maître. Et vraiment, c'est l'influence principale dans l'aïkido, c'est-à-dire que l'histoire de la synthèse de tous les arts martiaux japonais qui deviennent Aikido, ça ne tient pas debout, et on voit clairement que 99% des techniques d'Aikido sont directement levées du curriculum de Daitoryu. Et je suis en mesure de le dire puisque je pratique les deux, donc même sans prendre mon opinion qui ne vaut pas plus que celle de n'importe qui, quand on regarde les ouvrages d'Aitoryu, les ouvrages d'Aikido, on voit clairement que les mouvements sont vraiment très, très similaires.
Oui, d'ailleurs, quand j'avais découvert l'histoire que tu es en train de raconter, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un peu googlisé Daitoryu Aikijutsu, et c'est vrai que c'est comme ça que j'étais tombé sur ton blog et ta chaîne YouTube. Effectivement, c'était assez frappant d'avoir un francophone qui s'entraîne au Daitoryu. Mais voilà, on en parlera peut-être plus tard, continuer un peu l'historique. Mais sinon, Takeda Sokaku, c'était quelqu'un d'assez, enfin, finalement important pour l'histoire des arts martiaux. On dit qu'il est aussi à l'origine de l'Apkido, enfin, qu'un de ses autres élèves aurait formé l'Apkido. Donc il aurait généré d'un côté l'Aïkido et puis de l'autre l'Apkido coréen. C'est une figure assez...
Oui, d'ailleurs... Bon, l'aïkido, c'est un petit peu particulier parce que c'est un art qui a été fondé par un Coréen. Et l'aïkido, on pourrait même discuter le fait qu'il y a dans l'aïkido beaucoup d'autres choses que du Daitoryu. C'est-à-dire qu'ils ont des coups de pied, ils ont tout un tas de choses. Je ne suis pas spécialiste, mais ils ont un certain nombre d'autres choses. Maintenant, effectivement, en tout cas, le fondateur du aïkido dit qu'il a étudié avec Takeda Sokaku. Bon, le problème, c'est que il reste pas de trace de son nom dans les registres de Sokaku, alors que Sokaku a tenu des registres quand même très très détaillés. C'est-à-dire que tu venais participer à un de ses stages, dans sa tête, tu devenais son élève à vie, et de toute façon, ton nom était inscrit. Maintenant, le nom de cette personne-là n'est pas dans les registres. Bon, il peut y avoir un certain nombre de raisons à ça. Il était coréen. Bon, dans cette période-là, peut-être que les Japonais n'ont pas désiré avoir un coréen dans leur filiation. C'est des hypothèses. Et je suis un peu mal placé pour les discuter. C'est une possibilité.
Bon, en tout cas pour les auditeurs, ça montre la difficulté de retracer ou de prouver l'origine des arts martiaux et de savoir exactement
comment... C'est très compliqué. Ouais. c'est-à-dire que les Japonais sont quand même des bureaucrates depuis longtemps et que en fait, dans beaucoup de systèmes, les registres sont très très clairs. Ils sont bien gardés, on peut les consulter, les noms sont inscrits dans toutes les anciennes écoles, c'est assez clair. Le Daitoryu est un peu particulier parce que les registres n'ont soit disparu, soit ils ne sont pas disponibles, soit ils n'ont jamais existé. Et donc là, l'histoire est un petit peu plus compliquée. Donc le Daitoryu, c'est pas très simple comme histoire. Bon, maintenant, le registre de Takeda, lui, celui-ci est disponible. Donc, vraiment, une liste d'élèves très importante. Et pour revenir au fait des autres, des arts qui sont hérités du Daitoryu, il y a pas mal d'autres choses. Hein. Je veux dire, il y a des élèves assez importants de Takeda Sokaku qui ont créé leurs propres choses après, comme Horikawa, qui a reçu le Menkyo Kaiden du fils de Takeda, mais a priori à la demande de Takeda. Il y a un certain nombre de lignées, ce qui est inévitable au Japon, évidemment. Et donc l'aïkido est l'une de ces lignées. Et certains autres, on pense que le lien entre l'aïkido et le Daitoryu est plus fort que ce qu'on aurait voulu dire il y a quelques années, quoi.
Tout à fait, oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On en était au moment où Ueshiba rencontre Takeda et il se met à s'entraîner avec. Et puis, qu'est-ce qui se passe ensuite dans la vie d'Ueshiba ?
Alors, dans sa tête, il voit clairement quelque chose, l'aboutissement de sa recherche toutes ces années pour trouver un maître, un art. Il voit quelque chose qui l'intéresse vraiment énormément. Donc, il va s'entraîner beaucoup avec Takeda. Takeda voit, je pense, en Ueshiba un élève doué. Certains aiment à dire que c'était son meilleur élève, d'autres disent que c'était quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance finalement. Mais vraiment, clairement, il y a une relation qui s'instaure entre les deux. Takeda vit dans la famille de Ueshiba pendant un certain temps. Ueshiba va même lui donner certaines terres au moment où il va s'en aller. Donc vraiment une relation assez proche. Ueshiba va recevoir un diplôme des mains de Takeda qui s'appelle le Kyoju Dari. Ce qui est un diplôme d'instructeur. Et à l'époque, c'était la plus haute distinction qui existait dans le Daitoryu. Ensuite, plus tard, Takeda donnera des Menkyo Kaiden, des certificats de transmission totale. Mais à l'époque de Ueshiba, ça n'existait pas. Donc on peut penser vraiment que Ueshiba a atteint un niveau très élevé en Daitoryu pour recevoir ce diplôme d'instructeur.
Juste pour être clair, après, clair pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je suppose que c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de grade, on peut imaginer le système actuel. Oui. Donc forcément, on était élève et puis on recevait ce certificat d'instructeur et c'était les deux possibilités. Mais c'était tout ce qu'on pouvait faire. On n'avait pas vraiment de ceinture noire et des choses comme ça, quoi.
Effectivement, oui. Les ceintures sont venues après. Soit certaines fois, elles ont remplacé les grades anciens. Soit elles sont venues s'ajouter au-dessus du système de grade ancien, on pourra discuter de comment c'est venu. Mais effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de ceinture noire, il n'y avait pas de shodan, de nidan, de choses comme ça. Peut-être parce que les gens étaient plus patients à l'époque, je ne sais pas, mais en tout cas, on étudiait sans ça.
Ueshiba reçoit son certificat d'instructeur de Takeda, et puis comment sa carrière évolue à partir de là?
Donc oui, donc Ueshiba reçoit le Kyoju Daeri en 1922 à Ayabe quand Takeda est venu le voir chez lui. Et donc bon, une fois que tu reçois ton diplôme d'instructeur, ben tu peux donc enseigner à tes propres élèves, ce que Ueshiba a fait. Et donc il enseignait le Daitoryu Aiki Jujutsu pendant un moment. Après, bon, au Japon, le diplôme d'enseignement est en fait un. Il y a tout un tas de clauses qui se trouvent dans ce diplôme-là. Et le diplôme de Ueshiba est d'ailleurs disponible. Et je crois d'ailleurs qu'il figure sur ce diplôme la somme que Ueshiba devrait reverser à Takeda pour chaque élève qu'il instruit. Donc c'est assez précis. Et donc Ueshiba monte son école, enseigne à ses propres élèves et a priori donne une somme d'argent assez régulièrement à Takeda, comme il se devait. Après cela, bon, il y a une. Apparemment, les relations étaient un petit peu plus difficiles au bout d'un moment. Certains chercheurs de l'aïkido, dont Stanley Pranin, parce qu'il faut quand même parler de Stanley Pranin, qui est un des pionniers dans les recherches de l'histoire de l'aïkido, dit qu'apparemment, ils se sont un petit peu éloignés à cause de ce problème d'argent. Moi, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais clairement, une distance s'est établie. Et Ueshiba a pris un petit peu son essor de lui-même, c'est-à-dire qu'il a commencé à être connu un petit peu dans les milieux un petit peu militaires et les classes aisées de la population, et avec un certain succès, il a établi quelques dojos à Tokyo, et d'ailleurs dans le Kansai aussi, dans certains autres endroits. Il y a aussi, il faut parler d'une chose autre, c'est-à-dire que à un moment donné, Ueshiba a fait la rencontre d'un religieux qui s'appelait Deguchi Onisaburo, qui était le leader de l'Omo Tokyo, qui est une secte Shinto, enfin héritée du Shinto japonaise, et que ce révérend Deguchi a eu une influence assez profonde sur Ueshiba, et qu'il a été assez impliqué dans l'établissement des dojos initiaux de Ueshiba. Et apparemment, il y avait un petite inimité entre Takeda et Deguchi, et que ça peut-être aussi participé au fait qu'il s'éloigne un petit peu. Mais toujours est-il que Ueshiba enseignait vraiment clairement du Daitoryu. D'ailleurs, je suis l'un de ceux qui pensent que Ueshiba a enseigné le Daitoryu jusqu'à la fin de sa vie, que ça s'appelle Aikido ou pas. Et donc, on peut prendre comme exemple le premier livre technique qui a été publié au nom de Ueshiba, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'explications techniques qui étaient dedans et certains dessins qui n'étaient pas de lui, qui étaient d'une de ses élèves, qui a été publié en 1933. Et quand j'ai eu accès à ce livre, j'ai été surpris de voir que on m'aurait présenté ça comme un aide-mémoire des techniques de Daitoryu que j'apprenais moi de mon côté en Daitoryu, j'y aurais cru. Mais en fait, c'était un répertoire technique d'aïkido. Donc ça, c'est 1933. Certaines personnes avancent que le fondateur de l'aïkido aurait changé son art en aïkido pendant la guerre, et que l'aïkido serait apparu en tant que tel à la fin des années 40, quoi, début des années 50. Bon, effectivement, le nom Aikido a été déposé en 1942, mais techniquement, il n'y a pas de changement. Il y a un ouvrage qui a été retrouvé assez récemment par un autre historien de l'Aikido qui s'appelle Chris Lee, qui est à Hawaï, qui s'appelle Makino Uchi. Et c'est un ouvrage de 1954 qui est en fait vraiment grosso modo une réédition de l'ouvrage de 1933, avec les mêmes instructions et avec des copies des dessins de l'ouvrage de 1933. C'est-à-dire qu'après-guerre, et après donc la période dite d'Iwama, c'est-à-dire la retraite de Ueshiba pendant la guerre dans une ferme dans laquelle il aurait, a priori parfait, terminé de créer son art, eh bien, après cette période-là, les mêmes techniques étaient enseignées, puisque Ueshiba donnait les mêmes aides-mémoires à ses élèves qu'il avait données avant la guerre. Donc, dans sa tête, fondamentalement, il ne devait pas y avoir de différence technique, au moins. Donc ça, ce sont des documents très très importants, parce qu'ils montrent que le fondateur n'a jamais arrêté de faire du Daitoryu, quoi. Et quand on sait où regarder, quand on connaît les points du Daitoryu, quand on connaît les détails, même sur les vidéos les plus récentes de Ueshiba, on voit clairement ce qu'il fait, on voit clairement du Daitoryu.
Mais donc, est-ce que ce que tu serais en train de me dire, c'est que finalement l'aïkido, ça serait plus son fils qui l'aurait créé dans la période d'après-guerre, que... Enfin, il aurait plus introduit plus de modifications, ou bien est-ce que tu considères que l'aïkido c'est juste encore du Daitoryu? Parce que je ne sais pas, enfin, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu des évolutions, même si des micro-changements. Ou... Moi j'ai l'impression que les mouvements sont peut-être plus sphériques, mais enfin de toute façon c'est toi l'expert, donc dis-moi ce que tu en penses. Mais j'ai l'impression, moi mon impression ça aurait été que peut-être le fils de Ueshiba, lorsqu'il aurait codifié le curriculum de l'aïkido après-guerre, aurait introduit des changements qui l'auraient un peu plus différencié, ou est-ce que je me trompe?
Alors, je suis d'accord. Le fils de Morie, qui s'appelait Kishomaru Ueshiba, a introduit des changements dans l'aïkido. Des changements structurels, des changements peut-être, on peut peut-être même aller jusqu'à dire philosophiques. Bon, technique, inévitablement, puisque prenant la responsabilité technique de l'aïkido, qu'il le veuille ou non, il faisait les techniques d'une façon qui n'était pas totalement identique à celle de son père. D'ailleurs, ce qui se retrouve dans tous les arts martiaux, dans tous les Kolyu. Maintenant, l'évolution de l'aïkido est indéniable quand on regarde dans l'art dans sa globalité, ne serait-ce que par le fait que c'est passé d'un art confidentiel, disponible pour une infime partie de la population aisée, pour les militaires, à un art qui se voulait global. Global au Japon, mais aussi global à l'international. Et ça, du vivant de Sensei, et avec sa bénédiction. Donc l'aïkido a changé, mais pas forcément pour les raisons qu'on pense. C'est-à-dire que un des grands facteurs de changement de l'aïkido a été la défaite après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il a fallu préserver ce bien culturel, mais le présenter sous une forme qui ne fasse pas de vagues. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a un petit peu peut-être changé les techniques les plus dévastatrices, et on a retiré beaucoup, beaucoup d'aspects religieux, Shinto en particulier, parce que la religion Shinto est très, très associée au milieu d'extrême droite, toujours d'ailleurs. Hein. Et donc, c'était vraiment pas populaire, surtout à la sortie de la guerre. Mais bon, même encore maintenant, il y a toute une classe de la population à qui il ne faut pas parler de Shinto. Enfin, moi, je vois, hein, avec ma femme, il ne faut pas lui parler de Shinto. Elle a l'impression, si tu veux, que si on lui parle de Shinto, pour prendre une image que les Français connaîtront, on est Marine Le Pen, quoi. Donc il a fallu enlever ça.
Si je ne m'abuse, dans la période d'après-guerre, les Américains, quand ils avaient le contrôle du pays, ont interdit les pratiques martiales militaristes. Et donc, je crois que même le kendo a été interdit pendant un certain temps. Et c'est à ce moment-là que certaines disciplines, comme le judo ou l'aïkido, ont pu peut-être insister sur le fait où l'aïkido a pu se transformer en disant nous on est plutôt une discipline pacifiste, on n'est pas vraiment pour pouvoir continuer à pratiquer sous l'occupation américaine. Non.
Alors au niveau des détails de cette interdiction, je dois admettre que je ne peux pas parler avec certitude, parce que j'ai lu des ouvrages qui disaient que c'était pas une interdiction totale, donc je ne peux pas parler au niveau des détails. Par contre, il est clair que le gouvernement japonais est allé jusqu'à conseiller à Kishomaru d'établir le quartier général administratif de l'aïkido à Iwama, donc dans la campagne, pendant un petit moment après-guerre, afin que le truc passe un petit peu en sourdine, qu'il soit pas trop sur le devant de la scène, pour éviter les frictions avec les forces d'occupation américaines. Donc ça, c'est vrai. Et effectivement, il a fallu réfléchir à la façon dont présenter l'aïkido pour qu'elle soit acceptable, non seulement domestiquement, mais aussi à l'international. Et donc c'est là que on a vraiment insisté sur la notion d'harmonie, comment dire, de non-violence, de choses comme ça. Mais c'était nécessaire. Je pense que si ce travail n'avait pas été fait, l'aïkido serait devenu aussi obscur qu'énormément des arts martiaux traditionnels japonais, et que peut-être que toi et moi on serait pas en train de parler en ce moment, quoi. Et donc oui, enfin, de par les inspirations philosophiques de Moyet, et comment dire, les influences, je dirais, humanistes de Kishomaru, qui était quand même quelqu'un qui lisait beaucoup. Enfin, quelqu'un qui est allé jusqu'à citer des scientifiques comme Carl Sagan, par exemple. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai lu une interview de Kishomaru une fois, et enfin, qui cite Carl Sagan, qui est pas forcément connu en dehors de l'Angleterre, des États-Unis, mais a fortiori au Japon. Ça m'a vraiment beaucoup surpris. Donc, c'est évident qu'avec quelqu'un d'aussi érudit, et j'emploie vraiment le terme humaniste volontairement, la communication par rapport à l'aïkido a changé un peu, et en ce qui me concerne, je pense pour le meilleur. Maintenant, il y a un autre point qui est important, c'est que par rapport au Koryu, le Koryu est ce qu'on appelle un trésor culturel, et en tant que tel, il est plus ou moins gravé dans le marbre, et on s'efforce de ne pas le changer. L'aïkido, c'est complètement différent. C'est un Gendai Budo, c'est un Budo moderne. Et clairement, le fondateur, lui aussi, avait cette idée que l'aïkido, c'était, bon, pas la même chose que les arts traditionnels. Et donc, de ce fait, la porte s'ouvre au changement, à l'évolution. C'est-à-dire que après la guerre, il a fallu transformer l'aïkido en quelque chose de pertinent pour l'époque, et que je trouve ça tout à fait logique que l'aïkido continue à évoluer pour continuer à rester pertinent à l'époque actuelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN de l'aïkido, au-delà de la technique, au niveau de la raison pour laquelle il a été formé. Donc on voit effectivement des évolutions. Déjà, il y a des grandes différences de pratique d'une école à l'autre.
Oui, mais pourtant, en même temps, on entend beaucoup de gens qui ont une attitude un peu puriste en disant on doit toujours faire retour à Ushiba, ou Ushiba, c'est l'aïkido pur. Et puis, enfin, il y a quand même ce genre d'idées qui sont véhiculées dans certains milieux
C'est
d'aïkido,
vrai.
hein, qui vont à l'encontre de ça. Bon, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'on l'entend quand même, quoi.
Oui, et puis bon, une fois qu'on a dit il faut revenir à l'aïkido de Ueshiba, il faudrait savoir déjà comprendre qu'est-ce qu'était l'aïkido de Ueshiba. Et moi, je peux te dire sincèrement que dans toutes les écoles d'aïkido que j'ai faites, on m'a dit la même chose. Hein, ça ne me surprend pas du tout ce que tu me dis. Maintenant, sachant ce que je sais du Daito-ryu et voyant des choses différentes dans l'aïkido de Ueshiba, je vois les points, c'est une perception qui se développe. Il va falloir quand même qu'on me dise, qu'on m'explique ce que c'est que l'aïkido de Ueshiba. Maintenant, chaque élève à chaque période, et même à la même période avec des sensibilités différentes, va retenir quelque chose de différent, va faire des choix différents. Il est très, très important de se rendre compte du fait qu'ils ne sont pas forcément mutuellement exclusifs, et que très souvent ils sont justifiables. Il est assez facile, en fait, de considérer comme des erreurs des choses qu'on ne fait pas dans notre école, mais avec un petit peu de bouteille, ne serait-ce qu'en se baladant d'une école à l'autre ou en étudiant l'histoire des techniques, tout d'un coup, les différences qui nous choquaient, qui nous semblaient comme des erreurs ou inacceptables, prennent leur sens. On s'aperçoit pourquoi les gens font les choses de la façon dont ils les font. Est-ce qu'on se met en seiza? Est-ce qu'on se met en kisa quand on fait du suwari-waza? Enfin, tout un tas de choses comme ça. Et donc, ces erreurs, enfin, ce qu'on considère comme des erreurs, tout d'un coup, se justifient historiquement. Et donc, on en devient plus tolérant. On fait toujours nos propres choix de pratique, mais déjà, on comprend nos choix de pratique. Et en plus, on comprend c'est des autres. On n'y adhère pas forcément, mais on est beaucoup plus tolérant. Et pour moi, c'est là, on met le doigt sur l'aspect fondamental de cette recherche historique. Moi, je ne veux surtout pas dire aux gens, arrêtez l'aïkido, le vrai truc, c'est le Daito-ryu. Ce n'est pas du tout mon propos. Je me sers du Daito-ryu pour essayer de comprendre ce qu'il y avait dans la tête de Ueshiba. Et plus je creuse, plus les autres choses, les autres façons de faire m'intéressent. Et c'est vraiment la chose que j'essaie de faire passer avant de juger, avant de refuser, essayer de comprendre les raisons des choix. Et quand on a un petit peu cette connaissance historique et qu'on commence à faire les connexions, les liens, c'est vraiment très très intéressant de voir de la façon dont font certaines écoles. Je citerai Tomiki, je citerai Iwama, je citerai Yoshinkan, tout ça. Et toutes ces écoles font des choses justifiées. Et quand on comprend ces choix, on voit à quel point l'aïkido c'est riche. Et je pense sincèrement que au sensei, s'il voyait ça, il serait satisfait. Parce que l'aïkido a évolué dans des contextes différents et qu'il a trouvé une pertinence dans chacun de ces contextes.
Oui, donc, je ne sais pas si tu veux, un peu difficile de décrire ça en audio, mais comment est-ce que tu décrirais par rapport au curriculum Aikikai aujourd'hui les pratiques de Daitori, quelles seraient les différences qui ont été introduites avec le temps? Enfin, c'est probablement parce que forcément les auditeurs n'ont aucune idée de à quoi ressemble Daitori, donc comment tu pourrais le décrire par rapport à l'Aikigo, Aikikai par exemple?
Ok, alors
Ça, c'est
d'abord,
la question compliquée, j'imagine.
oui, alors déjà, je voudrais dire que moi, avant de commencer le Daito-ryu, je pensais que le Daito-ryu, c'était de l'aïkido où on appuie un peu, un truc un peu plus brutal, un peu plus direct. Or, c'est peut-être vrai pour le niveau de base. Par contre, je propose que. À haut niveau, le Daito-ryu me semble en fait plus doux que beaucoup beaucoup d'aïkido. Parce qu'on utilise moins les contraintes articulaires, on utilise moins la douleur, et que c'est juste le placement qui est plus pertinent. Donc cet aspect un petit peu, le Daito-ryu c'est de l'aïkido un peu bourrin, en fait ne tient pas la
Oui, là,
distance. Alors
tu l'as
maintenant,
présenté
oui.
encore de manière, encore pas trop mal, mais je crois que ce que moi j'entendrais souvent, c'est, bah oui, avant l'aïkido, il y avait du jujutsu, et le jujutsu, bah c'est de l'aïkido avec des frappes, quoi. Ça, c'est ce qu'on entend souvent, non?
Ah ouais, non, d'accord. S'il faut qu'on débroussaille aussi loin que ça,
Ah oui,
on
il
n'est
faut
pas touché.
débroussailler.
Alors maintenant, moi je veux bien, mais alors il faudra peut-être parler de ce qu'on considère ce qu'est le jujitsu. Parce que bon, l'image qu'on a du jujitsu en France, en particulier le jujitsu fédéral, n'a pas grand-chose à voir avec le jujitsu dans son sens original, quoi. Donc là, c'est on ouvre, on ouvre une autre boîte.
De Pandore, oui.
Donc oui, de Pandore. Oui. Bon, la différence entre le curriculum, en fait, c'est bien de parler de curriculum parce que c'est plus précis et c'est peut-être plus facile. La différence entre le curriculum de Daito-ryu et le curriculum d'Aïkido, c'est très simple, c'est que comme il fallait développer l'aïkido et le transmettre, que l'art martial lui-même n'était qu'un vecteur pour transmettre un certain nombre de valeurs culturelles et morales, on a réduit le cursus. C'est-à-dire qu'on a réduit le cursus de 3000 techniques à 30. Ce qui est tout à fait logique. S'il fallait apprendre 3000 techniques, on formerait jamais un instructeur, ce serait pas possible, quoi. Donc on a réduit le cursus. On a pris des choses qui semblent essentielles, ce qu'on appelle peut-être les principes du cursus de Daito-ryu, hein, on les a mis dans l'aïkido, et c'est ça qu'on a diffusé, qu'on a enseigné, qu'on a diffusé en tant qu'aïkido. Maintenant, les techniques elles-mêmes, très sincèrement, quand tu prends ce qu'on appelle Nikkyo, ce qu'on appelle Ikkyo, ce qu'on appelle Sankyo, ce que tu veux, côté Gaeshi, on les retrouve très clairement dans le Daito-ryu, mais même sans aucun travail de, comment dire, d'interprétation ou de traduction, hein, on voit clairement. Maintenant, la différence entre l'articulation de ces curriculums, de ces cursus, est qu'on parle de principes. Et donc on a les principes en Daitoryu, on a les cinq principes dont on parle en Aikido, c'est-à-dire Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo. Sauf que ça s'appelle Kajo en Daitoryu, le kanji n'est pas le même, mais vraiment, franchement, pour ce qui nous concerne, ça veut dire à peu près la même chose. On trouve même d'ailleurs des écoles d'Aikido qui utilisent toujours le terme Kajo, comme le Yoshinkan. Et donc, dans chaque principe, il faut prendre le principe comme un tiroir dans lequel on met des techniques. Donc, Ikkajo, Ikkyo, c'est un tiroir dans lequel il y a 30 techniques. Nikkajo, Nikkyo, c'est un tiroir dans lequel il y a 30 techniques, et ainsi de suite. Donc il se trouve qu'en fait, en Aikido, on a Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo, mais on n'a pris qu'une technique de chaque tiroir. Alors qu'en Daitoryu, il y a entre 6 et 30 techniques par tiroir. Donc c'est ça, c'est pas une révolution au niveau de l'articulation du curriculum, c'est juste un amincissement du bagage technique. Maintenant, moi j'ai tendance à faire le parallèle avec des exercices de maths, si tu veux. Il y a deux types de façons d'apprendre un théorème en maths, c'est-à-dire qu'on peut apprendre le théorème et puis on fait un exercice et on a compris, ou alors on fait 50 exercices jusqu'à ce qu'on comprenne. Maintenant, en fonction du type d'élève qu'on est, on a peut-être besoin de l'un ou de l'autre. L'aïkido a un parti pris, c'est-à-dire on a le théorème, le principe, et on a un exercice pour l'illustrer, et on le fait ad nauseam jusqu'à ce qu'on comprenne le truc. En Daitoryu, il y a 30 exercices pour le principe Ikkajo, et c'est une façon en fait différente d'apprendre. Maintenant, il y a des avantages et limitations dans les deux. C'est-à-dire que les 30 techniques pour apprendre Ikkajo, c'est pratique parce que si on ne comprend pas une technique, on en fait une autre et ça va peut-être venir. Le danger, c'est qu'on peut se retrouver prisonnier du catalogage, quoi. On apprend le botin et puis finalement, on est tellement préoccupé par l'apprentissage des 3000 techniques qu'on peut peut-être même rater un petit peu l'aspect plus général des principes. Alors qu'en Aikido, c'est peut-être un peu moins risqué. Malheureusement, vu qu'on n'a qu'une technique, si malheureusement on ne l'apprend pas correctement, là, pour apprendre le principe, ça va être très compliqué. Donc voilà, donc on a ce lien entre les deux. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est, je parlais d'Ikkyo jusqu'à Gokyo, un Aikidoka va probablement me demander, mais alors, Shihonage, Kote Gaeshi, ça va où? Puisqu'il n'y a pas marqué Kyo derrière, donc c'est pas un principe, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait qu'on a des techniques qui sont finalement pas dans les tiroirs? Et donc, en fait, ça, c'est un des points intéressants par rapport à l'aïkido, c'est que effectivement ces techniques ont été sorties de leur tiroir. Donc, on ne nous dit pas que ce Kote Gaeshi est un Kote Gaeshi d'Ikkajo ou un Kote Gaeshi de Sankajo. On nous dit que c'est Kote Gaeshi. Or, quand on regarde dans le Daitoryu, il y a des Kote Gaeshi dans tous les Kajo. Dans les cursus officiels, et en fait, même dans les cursus non officiels, il y en a encore plus. C'est-à-dire qu'il y a des façons de faire la même technique en fonction de principes différents. C'est ça la différence entre la technique et le principe. C'est-à-dire qu'on peut appeler ça Kote Gaeshi, c'est ce qui est en fait, on rend Kote Gaeshi, c'est on rend l'avant-bras. Mais on peut le faire en fonction du principe Ikkajo, du principe Nikkajo, du principe Sankajo. Tant qu'on sait lequel on fait, c'est bon. D'ailleurs, quand je me balade dans les écoles d'aïkido et que je vois les profs faire, ils font des Kote Gaeshi différemment. Et d'une école à l'autre, on va nous dire, ah, leur Kote Gaeshi est pas bon, le nôtre est bon. Tout ce que je vois moi, je vois des Kote Gaeshi qui sont faits, bon, pour ceux qui sont bien faits, hein, maintenant il y a plein de façons de mal faire un Kote Gaeshi, mais pour ceux qui sont bien faits, eh ben, je vois, ah bah oui, bah eux ils font un Kote Gaeshi d'Ikkajo, et puis eux ils font un Kote Gaeshi de Sankajo, donc forcément, ils n'ont pas l'impression de faire le même mouvement. Mais si on réfléchit au principe, on voit qu'effectivement, ce n'est pas le même principe qui est appliqué. Ça n'enlève rien à la pertinence des Kote Gaeshi, ils sont tous les deux bons. Donc voilà l'aspect un petit peu technique. Maintenant, le problème, c'est que c'est un petit peu la même chose en science, en fait. Enfin, pas en science, mais aux gens qui sont pas forcément assez instruits par rapport à la méthode scientifique, c'est que quand on a un trou, l'esprit humain a tendance à vouloir le combler, même si ce qu'on met dedans, ça tient pas debout, quoi. C'est-à-dire que une mauvaise explication, toujours mieux que pas d'explication du tout. Et donc en Aikido, c'est la même chose. C'est-à-dire, j'ai posé la question récemment à un grand maître d'Aikido que je ne citerai pas. Et je lui ai demandé comment ça se fait, je lui ai posé cette question, comment ça se fait que certaines techniques en Aikido sont des principes, Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo, et comment ça se fait que Kote Gaeshi, Shihonage, ne bénéficient pas de ce suffixe de principe. Et la réponse qu'il m'a donnée m'a énormément déçu. J'ai d'ailleurs failli plier la caméra au moment où il m'a donné la réponse, parce que je me suis dit, bon, c'est terminé, j'aurai pas les réponses que je veux, mais c'est pas grave. Il m'a dit, bon, c'est très simple. Les cinq premières techniques, les cinq premiers principes sont des immobilisations, les autres sont des projections. C'est-à-dire qu'il a, n'ayant pas la réponse, ne connaissant pas la réponse, il a déduit une réponse lui-même par rapport à cette organisation technique qu'il ne comprenait pas. Et là, pour moi, c'est là qu'il faut faire très très attention. Et c'est là que, ben, je suis scientifique comme toi, moi je préfère dire je ne sais pas que de fabriquer une réponse bidon. Cette réponse est totalement fausse, en fait. Elle ne tient pas debout deux minutes. Donc, il aurait mieux fallu qu'ils me disent, bah, écoute, je sais pas, on m'a pas dit. On sait pas tout, hein. Parce que c'est clairement pas le cas. Donc, voilà, le problème qu'on a en Aikido en ce moment, c'est que c'est normal de pas tout savoir. On a tous des choix techniques. On a tous des choix de professeurs. On pratique pas 10 heures par jour. L'aïkido, c'est pour tout le monde, mais tout l'aïkido n'est pas disponible pour tout le monde. Et c'est très bien de dire, ben là, je sais pas. Et donc, moi, je me bats contre les gens qui disent, moi, je sais, quand ils donnent des explications bidons à des questions qui sont tout à fait pertinentes, comme la place du Surewaza, la place des armes et toutes ces choses-là.
Oui, je trouve que tu expliques vraiment très bien l'organisation du Daito Ryu et la différence avec l'aïkido, mais juste une question au niveau de l'efficacité, enfin bon... Est-ce que tu as l'impression que la méthode pédagogique du Daito Ryu d'enseigner beaucoup de techniques par tiroir mène à des combattants qui auraient plus... C'est peut-être une question chargée, mais enfin bon, je tente le coup quand même. Qui auraient plus d'efficacité en combat réel et que l'aïkido mènerait... Enfin voilà, on pourrait dire, bah oui, l'aïkido, ça sert au développement humain, enfin à la réalisation personnelle, donc il y aurait une perte d'efficacité avec cette mode d'enseignement où on limite la technique par... par niveau, par principe, ou est-ce que tu penses que non, les deux approches peuvent mener à des gens qui ont une bonne efficacité en combat réel? Qu'est-ce que tu en penses?
Ah, c'est effectivement une question compliquée. Ok. En Daito Ryu, puisque moi j'étais Aikido, enfin je suis Aikidoka et je m'entraîne au Daito Ryu, on m'a fait comprendre que l'aïkido c'était pour les nuls, et puis que les vrais ils faisaient du Daito Ryu, et puis que nous ce qu'on faisait en aïkido ça les faisait bien rigoler, et puis qu'ils faisaient le vrai truc qui marche.
Ouais, j'imagine bien que c'est ce qui se dit, oui, effectivement. Tous les groupes ont tendance à toujours penser qu'ils sont meilleurs que les autres, quoi, ça c'est clair.
Voilà. Et donc c'est pour ça que, bon, il y a des choses qui m'énervent dans l'aïkido, il y a des choses qui m'énervent dans le Daito Ryu. Hein. C'est pour ça que moi je suis un petit peu le cul entre deux chaises, mais bon, ça fait partie de mon caractère, donc ça ne dérange pas. Maintenant, encore une fois, c'est une question d'approche pédagogique et qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux. En Aikido, vraiment, vu qu'on bouge très rapidement, vu qu'on... Ouais, qu'on essaie de faire des choses un petit peu de haut niveau très rapidement, on peut manquer un petit peu de précision. C'est-à-dire qu'effectivement il y a des techniques qui marchent pas très bien parce qu'elles sont pas très bien faites, quoi. Maintenant il y a des techniques, des gens qui font des techniques très très bien qui marchent très bien. En Daito Ryu on passe plus de temps sur les détails, donc effectivement peut-être que la connaissance de la façon dont le corps se manipule est plus poussée. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont tendance à être assez prisonniers du catalogue. Et que, bon, moi je suis quelqu'un d'assez patient, d'assez gentil, je pense. Et ça me dérange pas qu'on se moque un peu de moi en tant qu'aïkidoka quand j'allais au Daito Ryu. J'ai vraiment résisté au maximum à l'envie de montrer ce que je savais. J'ai surtout, d'ailleurs, j'ai jamais fait d'aïkido en Daito Ryu. Même des fois, certains pièges qui étaient tendus, c'est-à-dire à la fin d'un stage, ah bah tiens, toi vu que tu fais de l'aïkido, pourquoi tu ne nous donnes pas une démonstration d'aïkido? Et là, on a très bien compris, on sent très très bien le piège, et là, c'est là qu'il faut dire, ah non, moi, déjà je suis pas très bon, puis en plus, non, c'est un stage de Daito Ryu, non, parce que là, si on fait ça, c'est terminé, quoi. Par contre, forcément, il y a eu des fois où ça s'est un petit peu moins bien passé que d'autres, et que ce que les gens qui font du Daitoryu ne comprennent pas forcément, c'est qu'en Aïkido, vu qu'on est dans la dynamique tout de suite, et vu que le nombre de pratiquants est beaucoup plus élevé et qu'on a tendance à être beaucoup plus mobile, on a tendance à se frotter avec des gens avec des caractères, des gabarits, des parties pris différents, beaucoup plus rapidement qu'en Aïtolu, on a tendance à être dans des petits groupes un petit peu protégés quelque part, quoi. Et donc en Aïkido, on a plus, je pense, plus tendance à tomber sur un os en stage qu'en Aïtolu. Et donc les fois, on m'a un petit peu chauffé. Bon, quand j'ai senti que si je faisais rien, ce serait blessure pour l'un ou pour l'autre, il a fallu faire quelque chose. Et ce dont les gens qui font du Daitoryu n'ont pas forcément l'habitude, c'est qu'il y a ce côté dynamique direct en Aïkido qui te permet, même si comment dire, ta technique est un petit peu olé-olé au niveau des détails, tu passes en vitesse ou en placement, on fait un petit peu plus de placement en Aïkido plus rapidement qu'en Daitoryu où ça vient à grade un petit peu plus élevé. Donc il y a. Pour résumer cette réponse qui est un petit peu longue, il y a des avantages aux deux systèmes. Et que loin de moi l'idée de dire que l'un est meilleur que l'autre ou plus l'un est plus efficace que l'autre. C'est vraiment, ça dépend des profs, ça dépend de la façon dont ils enseignent, ça dépend aussi de ce qu'ils ont envie de faire. Hein. Il y a des gens dont la priorité n'est pas l'efficacité tout de suite, que ce soit en Aïkido ou en Daitoryu. Donc il faut vraiment prendre ça comme des systèmes d'enseignement différents. Donc voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour au niveau de cette question-là.
Oui, en fait, on arrive tout doucement à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais dire que je n'ai pas encore couvert? Il y a des choses que tu voudrais. Ou sinon, je vais te poser la classique question: où est-ce qu'on te trouve sur Internet? Parle de ton blog et de ta chaîne YouTube, évidemment.
Alors, des choses qu'il faudrait dire. Ouais, je dirais que il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que le fait que les Gendai Budo, donc les arts martiaux modernes, comme le judo, le karatédo, l'aïkido et ainsi de suite, qui sont parfois vus par les gens qui font des arts martiaux traditionnels au Japon comme des versions un petit peu bâtardes de ce qu'ils font, il ne faut pas oublier que grâce à la diffusion de ces Gendai Budo, il y a eu un regain d'intérêt pour les arts martiaux traditionnels. C'est-à-dire que moi, j'aurais jamais connu le Daitoryu si j'avais pas fait d'aïkido. Donc, c'est très important de bien comprendre que ce sont des biens culturels. Certains qu'on veut figer, certains qui n'ont pas vocation à être figés comme l'aïkido, mais que ce sont des portes d'entrée vers un monde assez important, à mes yeux en tout cas. Et donc, qu'avant de chercher des différences, il faut peut-être essayer de creuser, peut-être trouver des similarités, et que plus on creuse, plus on se rend compte qu'il reste à creuser, et que les choses ne sont pas aussi compartimentées que ce qu'on pourrait croire. Moi, plus je creuse en Daitoryu, plus je vois des liens avec l'aïkido. Enfin, mon école de Daitoryu, le Takumakai, est assez particulière en cela. C'est-à-dire que les fondateurs du Takumakai ont étudié à l'origine le Daitoryu avec Ueshiba, à l'époque où ils faisaient du Daitoryu. Et ensuite, Takeda a repris le dojo. Donc, dans l'ADN de cette école de Daitoryu, dont le fondateur a reçu le Menkyo Kaiden de Takeda, c'est-à-dire le plus haut grade jamais donné, il y a des influences très très fortes de Ueshiba. Je dirais pas de l'aïkido, puisqu'à l'époque ils faisaient encore du Daitoryu, mais des influences de Ueshiba. Et que d'ailleurs, les cadres de cette école-là, mes professeurs à moi, sont allés s'entraîner avec Chiyoda, sont allés s'entraîner avec Morihei, avec Kishomaru. Donc il y a dans cette école une forte influence Ueshiba. Donc les choses sont beaucoup moins séparées que ce qu'on pense, quoi.
Super, bah écoute, ça c'est un très bon mot de la fin, je pense, hein, de souligner les similarités, c'est chouette. Et donc, où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet, ton blog et et ta chaîne YouTube ou s'il y a d'autres endroits, n'hésite pas. Et puis aussi, je sais que j'ai vu que l'année dernière, tu avais donné des stages en France. Et moi, je suis en Belgique, mais n'hésite pas à parler de ton actualité de ce côté-là ou de tes venues en France, des choses comme ça. Ouais.
Ok, alors mon site, c'est mon nom, c'est guillaume-errard.com, sans tout attaché. Ma chaîne YouTube, alors là je serais bien dans le mal de donner un URL, mais bon, franchement, tu tapes mon nom dans le moteur YouTube, tu devrais la trouver. Effectivement, je rentre en France. C'est peut-être important de le dire ça. Moi, je ne fais que de l'aïkido, c'est-à-dire que je n'enseigne pas le Data Ryu. De toute façon, même si j'avais envie de l'enseigner, je n'ai pas le Kojuda Ali, donc j'aurais pas l'autorisation de l'enseigner. Et je ne montre que de l'aïkido. Parce que parfois j'ai des gens qui voient certaines des vidéos de mes stages et qui me disent on voit pas le Daitoryu. Bon, déjà la question c'est est-ce que ces gens-là auraient la possibilité de voir les points de Daitoryu, parce que si on leur a pas appris, ça va être difficile à voir. Et de deux, effectivement, je respecte scrupuleusement les parties pris de ce que je comprends moi être l'aïkido, et que le Daitoryu informe ma pratique de l'aïkido, mais je ne mets pas de Daitoryu dans l'aïkido. On peut tout à fait comme les parties prises sont différents, c'est comme des règles de jeu. On peut jouer qu'une balle, mais décider que dans un jeu, on va prendre la balle à la main, puis dans l'autre, on va la prendre au pied. Là, c'est la même chose. Et pour moi, c'est fondamental pour respecter une pratique, quelle qu'elle soit. Faut bien l'opérer dans son contexte. Donc, je rentre en France, en Europe, de temps en temps, donner des stages donc d'aïkido. Je suis passé en Belgique plusieurs fois, d'ailleurs, à Bruxelles. À peu près une à deux fois par an, et donc je me balade un petit peu comme ça pour je vais chez les gens qui m'invitent, quoi, donc pour partager un petit peu ce que je sais, si ce n'est techniquement, en tout cas dans cette espèce d'esprit de recherche et puis d'ouverture surtout, quoi. C'est pour ça que j'ai la chance d'être invité dans les dojos de fédérations différentes, de groupes différents, certaines des grandes fédérations, certaines non affiliées. Et c'est bien de pouvoir arriver à communiquer avec tout le monde, au-delà des clivages. C'est-à-dire qu'en creusant suffisamment, on comprend et on respecte ce que font les autres. Maintenant, après, on fait son choix, ce qui est tout à fait normal, mais au moins, on arrête de juger, quoi.
Très bien. Bah, écoute, je pense que les auditeurs ont vraiment beaucoup appris sur l'histoire de l'aïkido aujourd'hui. C'était vraiment excellent.
Bah, j'espère que je n'ai pas été trop obscur. J'ai balancé pas mal de termes, mais Les informations sont là, c'est-à-dire que les travaux de gens anglophones comme Stanley Pranin, Elie Samdur, Chris Lee, tout est là. Enfin, il y a vraiment, si on lit ce qu'ils écrivent, tout est là, tout est compréhensible. Puis après, il y a des gens comme moi en français qui essaient d'un petit peu de partager un petit peu aussi. Les informations sont là, donc il n'y a pas de raison, quand on est un petit peu passionné, quand on a un petit peu de temps, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas se renseigner un petit peu.
Super, merci. Eh bien, à une prochaine fois, peut-être sur un tatami. Alors, je surveillerai ton site pour voir quand tu viens en Belgique. J'essaierai de venir te voir. Au revoir.